à Rencontre spirituelle aujourd'hui, j'ai cru bon de vous parler de Rumi. C'est un des plus grands mystiques que la Terre ait porté. C'est un musulman et on lui accorde la fondation des derviches tourneurs, du soufisme si on veut. C'est le plus grand poète mystique de langue persane, ça c'est sûr, la langue de l'Iran, quoi, aujourd'hui, est l'un des plus hauts génies de la littérature spirituelle universelle. Il est né en 1207, c'est-à-dire, en 1207, c'est à peine 9 ans avant la mort de Saint François d'Assise. Il est aussi un contemporain de saint Thomas d'Aquin. Quand il est mort, Rumi, en 1273, l'année suivante, saint Thomas d'Aquin est décédé. Ça vous le situe un peu. Il est né à Balkh en 1207. Il est mort à Cognac. Cognac est une ville extrêmement importante en Turquie. Si vous regardez la carte de la Turquie, vous avez Ankara au nord, et à même distance, à peu près, l'île de Chypre. Il a fondé à Konya, où il est enseveli, son tombeau est un lieu de pèlerinage. Il y a un mausolée qui est vénéré d'ailleurs partout l'Orient, c'est là qu'il est mort, à Konya. Et il est vraiment toujours lu, médité et vénéré à travers le monde de l'islam, et maintenant de plus en plus il est lu par les chrétiens qui ont beaucoup d'estime pour lui. Moi personnellement je l'admire énormément. Au microphone, Raymond Beaugrand Champagne. Il y a plusieurs années, c'était en 83, Marcel Brisebois et moi, nous avions rencontré Eva de Vitré-Meyerowitch, qui vit à Paris, qui est une ex-catholique devenue musulmane, qui est une éminente spécialiste en particulier de Rumi. Elle a publié, à ce moment-là, elle avait publié plus de 30 volumes. Elle en a sans doute publié bien d'autres depuis. Et c'est extraordinaire ce qu'elle a écrit, tant au sujet de Rumi que les traductions qu'elle a faites des œuvres de Rumi. C'est donc au cœur de l'Asie mineure, à Konya, cette ville pour ainsi dire sacrée, capitale politique au XIIIe siècle à ce moment-là, mais aussi une ville miroir où se reflète l'une des plus belles expressions donc de la musique musulmane, c'est celle des derviches tourneurs. Ce ne sont pas des gens qu'il faut mépriser, les derviches tourneurs, je vous mets en garde, qui sont les disciples de Rumi. Ils cherchent Dieu, eux, à travers la musique, la danse et la poésie. Au soufisme, on peut accorder plusieurs grands noms. Je vous laisse les noms rapidement, Ibn al-Farid, Ibn Arabi, dont on parle souvent, et Rumi. Trois personnages qui ont influencé l'islam jusqu'à nos jours. Et de façon fort différente. Je passe sur les deux premiers, mais Rumi, qui a vécu donc à Konya en Turquie, c'est l'un des plus grands poètes de la littérature persane, et son œuvre immense, plus de 5000 vers, est très lyrique et aussi didactique. Je vais vous en lire plusieurs de ses textes sublimes, mais vraiment sublimes. Et la personnalité chaleureuse de ce Rumi lui a valu de nombreux disciples, qui ont constitué, entre autres, l'ordre des Malawiyas. C'est comme ça qu'on appelle les derviches tourneurs. Il y a deux courants du soufisme, puis partant donc de la sainteté en islam. Quand je vous ai annoncé que je parlerais d'un saint musulman, des gens ont protesté, m'ont téléphoné, m'ont dit « le pape ne peut pas avoir canonisé un musulman ». Mais c'est jamais ce que j'ai voulu dire. C'est un saint musulman, un point, c'est tout. Ces courants sont axés sur la connaissance puis la contemplation. Et ça ressemble beaucoup à saint Jean de la Croix. Si bien que dans l'entrevue que nous accordait Eva de Vitré-Meyerowitch en 83, Elle disait que s'il prenait pas les références quand elle prenait des notes, parfois elle se demandait si c'était Saint-Jean de la Croix ou Rumi qui avait dit telle chose. Dans le courant intellectuel du soufisme, il y a aussi d'autres grands penseurs dont il faudra parler un jour, et puis il y a aussi le courant poétique avec en particulier Attar. Au siècle dernier, il y a eu l'émir Abdelkader, dont je vous ai parlé pendant une heure le 27 mai. C'est la cassette numéro 280. On peut l'obtenir toujours auprès de Marc Alexandre, dont je donne le numéro à la fin de l'émission. Abdelkader, qui a lutté courageusement contre la colonisation française avant d'être un soldat finalement. Et c'était un saint. Son ennemi français Bugeaud disait d'Abdelkader, c'est une espèce de prophète. C'est l'espérance de tous les musulmans fervents. D'ailleurs, il avait écrit le livre des Haltes, qui montre la profondeur de son enseignement spirituel à ce grand Abdelkader. Mais il est bon de s'arrêter vraiment à Jalal al-Din Rumi, l'un des plus grands d'entre eux, sinon le plus grand. Il est plus connu en Orient sous le nom de Maulana, mais je ferai grâce de ce nom et ça veut dire notre maître, je l'appellerai constamment Rumi. Il est donc né, comme je vous ai dit, en 1207, peut-être un peu plus tôt, mais on s'accorde en général pour dire 1207. Son père, un éminent théologien, a dû immigrer vers l'Ouest en 1218 pour des raisons politiques. Il a pris le chemin normal par Héra, où avait vécu le fameux Ansari. Il est passé par Nishapur, où vivait encore Attar, dont je vous ai mentionné le nom tout à l'heure et dont j'aimerais bien vous parler un jour. Avec les siens, là, il a commencé par accomplir le pèlerinage à la Mecque, puis il remonte par la Syrie jusqu'en Anatolie, où il se fixe dans la petite ville de Karaman, et c'est là que le jeune Jalal al-Din Rumi s'est marié. Il y a eu un premier fils, Sultan Walad, dont le nom revient souvent. Rumi a 19 ans, en 1226, moment de la naissance de son enfant. Deux ans plus tard, cette petite famille déménage pour Konya. Et Konya, c'est là où il est enterré, là où il est enseveli dans ce mausolée. C'est la ville dont saint Paul parle, vous savez, Iconium. Konya, Iconium. Bien oui, on retrouve ça dans le Nouveau Testament. Le sultan de Konya, Ala al-Din Kaikobad, groupait autour de lui des savants, des hommes de religion, des soufis. Il faisait de sa capitale un centre intellectuel et spirituel. C'est un milieu cosmopolite, où se côtoyaient des Turcs, des Arabes, des Grecs, des Persans, des Juifs, des Chrétiens, puis évidemment des musulmans. Et à la mort de son père en 1231, Rumi lui succède comme professeur de religion. Il est encore jeune. Il n'a que 24 ans. L'invasion des Mongols chasse alors nombre de gens vers l'ouest, et c'est ainsi qu'arrive à Konya un soufi très austère qui s'appelle Burhan al-Din Tirmidhi, qui avait été le disciple de son père, du père de Rumi, où Rumi est né à Balkh. C'est lui qui va initier notre jeune homme au soufisme, en lui imposant des exercices d'ascèse assez sévères, hein. Et pour éviter la dévastation, le sultan de Konya compose avec les Mongols. Il essaie de discuter avec eux parce qu'il veut pas que les Mongols dévastent Konya. Et heureusement, bien, la ville de Konya, qui est belle, demeure un havre de paix, puis Rumi se voit promis à une carrière brillante, puis sans histoire. C'est alors que, en octobre 1244, il a 37 ans, il rencontre, dans un caravansérail, Chams, C-H-A-M-S, ce nom revient très souvent. Chams al-Din Tabrizi, qui va bouleverser sa vie. C'est un Turc, lui, d'Azerbaïdjan. Et cet homme est ce qu'on appelle un calendar, c'est-à-dire un derviche errant, d'aspect peu recommandable. Ça rappelle certains personnages de notre histoire de l'Église, qui avaient des aspects peu recommandables, qui étaient des saints. Saint Joseph Benoît Labre, au siècle dernier. Au cours de ses voyages, il avait rencontré, lui, des maîtres importants en Irak, dont il est souvent question aux nouvelles de Radio Ville-Marie. Écoutez-vous les nouvelles de Radio Ville-Marie, c'est passionnant, hein? À 9h le matin, à midi, à 6h le soir. C'est les nouvelles peut-être les plus intéressantes de toute la radio, de toute la télévision, vous les avez à Radio Ville-Marie. Et justement, aujourd'hui, on nous parlait de l'Irak, où le patriarche chaldéen, catholique, se plaint de la mort des enfants. Eh oui, c'est terrible. Et alors donc, il était passé par l'Irak et la Syrie. Il avait rencontré là des maîtres importants et aucun ne l'avait satisfait. Il était très dur à leur égard et on connaît sa réponse d'ailleurs à l'un d'entre eux qui était un fervent adorateur de la beauté de Dieu à travers celle des créatures. Alors c'est ce personnage, Kirmani, qui lui dit « Je vois la lune se refléter dans un récipient plein d'eau. » Et Chams a répondu « Si tu n'as pas un fironcle dans le cou, pourquoi ne regardes-tu pas le ciel ?» En d'autres termes, plutôt que de regarder la lune dans un mirage, pourquoi pas la regarder elle-même ? Aller directement au but. Il avait trouvé un autre grand personnage, Ibn Arabi, dont j'espère vous parler, immature et arrogant. Il était sévère. Il avait considéré que c'était un caillou à côté de la perle, qui était pour lui Rumi, qu'il venait de rencontrer. Il se réclamait de personne, il s'estimait être le pôle de tous les bien-aimés de Dieu. Et un jour, dans sa prière, il demande à Dieu, « Est-il un seul être créé parmi tes élus qui puisse supporter ma compagnie ?» Dieu lui avait répondu, « Va à Rumi. » Il l'avait fait, il avait donc rencontré ce Rumi. Et ce fut le coup de foudre des deux côtés. Et délaissant sa famille, ses amis et ses cours, Rumi s'enferme avec Chams 6 mois durant, ce qui a fait scandale. Et se sentant objet de la jalousie et de l'hostilité générale, un beau jour, Chams est disparu. Et pour Rumi, c'est le drame. Et on va voir tout à l'heure ce qui arrive de toute cette aventure, d'une amitié entre deux grands mystiques et de la conduite des enfants de Rumi. On va voir que c'est pas toujours facile. Vous savez que les musulmans ont une grande vénération pour la Sainte Vierge, Marie, qu'ils considèrent comme une Vierge, et pour Jésus. Et dans un beau texte de Rumi, il parle de la naissance spirituelle. Il dit « De même que le souffle de l'Esprit-Saint, insufflé en Marie, lui a fait concevoir l'enfant divin. De même, lorsque la parole de Dieu pénètre dans le cœur de quelqu'un et que l'inspiration divine emplit son cœur et son âme, sa nature est telle qu'alors est produit en lui un enfant spirituel ayant le souffle de Jésus qui ressuscite les morts. L'appel de Dieu, qu'il soit voilé ou non, octroie ce qu'il a octroyé à Marie. Ô vous qui êtes corrompus par la mort à l'intérieur de votre corps, revenez donc de la non-existence à la voix de l'ami. En vérité, cette voix provient de Dieu. » C'est très beau. On croirait un texte chrétien. Et pourtant, c'est un texte musulman. Il est donc hanté, se roumis par la pensée de son ami Chams qui est perdu. Il se met à composer des vers en son honneur. Il s'adonne à la musique, à la danse. Il lui écrit lettre sur lettre. Il le conjure de revenir. Et finalement, le bruit court que Chams se trouve à Damas, en Syrie. Alors Rumi y envoie son fils, avec des présents pour hâter son retour. Et Chams finalement se laisse convaincre. Il prend le chemin de Konya, où habite, je vous le rappelle, Rumi et sa famille. Pour éviter le risque d'un nouveau départ, Rumi lui donne sa fille Kimia en mariage. Il installe le couple dans une dépendance de sa maison, ce qui a pour effet d'exacerber la haine de ceux qui l'habitent déjà ou la fréquentent. On n'y peut rien tant que sa fille Kimia est en vie, ce qui ne dure pas longtemps. Elle meurt en 1248, donc ça ne dure qu'à peu près 3 ans. Et c'est alors que, le soir du 5 décembre, quelqu'un frappe à la porte de Chams. On lui demande de venir quelques instants pour une affaire urgente. Et on ne le reverra jamais plus. Est-ce un nouveau départ? Une nouvelle fuite? On essaie de le faire croire à Rumi. Mais Rumi en doute. Il écrit d'ailleurs un vers. Quelqu'un a dit, j'ai vu Chams. Demande-lui, où est le chemin du ciel? C'est subtil, il croit fermement que son ami est rendu au ciel, a été tué. Le nom de son ami, Chams al-Din, signifie « soleil de la religion ». Et ce soleil, descendu sur la terre, a retrouvé donc son lieu. Et c'est là, croit-il, dans l'unité divine, que Rumi peut désormais le retrouver. Il déclare, et c'est très poétique, « celui qui dit le vivant éternel est mort, oh, le soleil de l'espérance est mort ». Oui, c'est le soleil de l'espérance est mort. C'est l'ennemi du soleil qui saute sur le toit et se bandant les yeux dit « le soleil est mort ». Et Chams, poignardé puis jeté dans un puits, avait été enterré en cachette par qui? Par Sultan Mualad, le premier fils de Rumi. Terrible, hein? Et on a récemment retrouvé sa tombe. Qui était vraiment le meurtrier, c'était Ala al-Din, le fils cadet de Rumi. Alors les deux frères s'étaient entendus. Rumi refusera plus tard d'assister à ses funérailles, mais ensuite il va lui pardonner à son fils. Chams est vivant dans son cœur. À quoi bon prolonger son deuil? Sur terre, Rumi va le remplacer par un ami commun et du même âge, qui s'appelle Salah al-Din Zarkoub. C'était un simple orfèvre. On dit qu'un jour, en passant près de sa boutique, le maître Rumi s'était mis à danser des heures durant sur la cadence de son marteau. Et Rumi s'en explique dans quelques vers. Je vous les lis pour ce qu'ils valent. « Celui qui est venu jadis vêtu de rouge est revenu cette année vêtu de brun. Le Turc dont vous avez ouï dire en son temps est réapparu cette année sous les traits d'un arabe. L'ami est un. Seul change le vêtement. Il a changé d'habit et il est revenu. Le vin est un. Seul change les carafes et ce vin nous enivre merveilleusement. » Alors pour comprendre, il faut savoir que quand il dit « l'ami est un », c'est Dieu ça. Quand il dit « le vin est un », seul change des carafes. Seul, il veut parler de l'amour divin qui nous enivre. Alors, il parle de vin, mais au fond, c'est l'amour divin qui nous enivre, qui l'enivre. Alors, Chams, qui est mort, Salah et plus tard Izam al-Din ne sont que des manifestations pour lui sous des traits humains, des miroirs de cet amour divin. C'est l'idéal de la façon de comprendre d'un saint. Un saint voit toujours, dans tout être, dans tout ami, l'image de Dieu. Et Rumi tient à consacrer l'amitié par des liens familiaux. Hein. Il marie son fils, Sultan Mualad, à la fille de Salah. Quand il y a tension dans le ménage, il console sa bru de façon touchante. Comme il fallait s'y attendre, l'entourage de Rumi est consterné par le nouveau compagnonnage. Ainsi, Chams, choqué par son comportement, il avait le mérite d'être instruit. Mais Salah, lui, ce n'est qu'un artisan, un orfèvre, je vous l'ai dit tout à l'heure, incapable de réciter correctement les quelques versets de la première sourate du Coran. Hein. Le Coran est divisé en sourates, hein, au cas où vous ne le sauriez pas. Et alors, on se moque. Mais il n'y a pas de drame, et Rumi a maintenant sa réputation bien établie dans la ville où il est l'ami de tous, depuis les plus hauts dignitaires jusqu'aux plus pauvres, qui recourent à lui pour être exempté d'impôts, obtenir du travail et de quoi payer les dettes. Il a les pieds à terre, Rumi, mais c'est un très grand mystique. Voici justement un exemple. On a conservé ce beau témoignage. C'est une lettre au vizir en faveur d'un jeune garçon abandonné. Il s'intéressait aux pauvres. Il parle de ce jeune garçon abandonné. Moi, ça m'a touché beaucoup, ça. Il n'a pas où passer la nuit. Sa mère est pauvre. Son beau-père a mauvais caractère et est avare. Il a jeté l'enfant dehors, lui disant de ne plus revenir chez lui et de ne plus manger son pain. Ces pauvres enfants abandonnés dans la ville de Montréal, que c'est triste. Alors lui s'en occupe, Rumi. 4 ans avec Chams, 10 ans avec Salah, qui meurt en 1258, l'année de la prise de Bagdad par les Mongols. Ses funérailles sont l'occasion d'une grande fête et son remplaçant auprès de Rumi est Hizam al-Din Chelebi. C'est de classe moyenne, doux et compatissant. Il était très apprécié de Chams, du vivant de Chams évidemment. C'est sur son conseil que Rumi a entrepris de composer le Matnaoui, qui est dicté aussi bien en dansant que dans la rue, 26 000 vers, qui, à propos de récits ou d'anecdotes, nous livre de façon impromptue puis désordonnée mais géniale tout son enseignement spirituel. À l'automne de 1273, Rumi tombe gravement malade. Le mois de décembre amène des tremblements de terre qui effraient la population. Alors il déclare « La terre a faim. Bientôt, elle aura un gras morceau. » Un gras, G-R-A-S, un gras morceau. Alors, elle restera tranquille. Étrange façon de comprendre les choses. Hein? Alors, il sent venir la mort, puis il console les siens par des poèmes. En voici un. « Oiseau qui est à présent séparé de votre cage, montrez-vous à nouveau et dites, où es-tu? Ô vous qui étiez né avant d'arriver à la mort, c'est une seconde naissance, renaissez, renaissez. Quand tu viendras pour visiter ma tombe, mon monument te paraîtra dansé. Frère, n'y viens pas sans ton tabourin. Quelqu'un de triste n'a pas sa place au banquet de Dieu. » Je répète, quelqu'un de triste n'a pas sa place au banquet de Dieu. Et comme il l'a dit, il l'a prédit, il meurt en souriant comme la rose. Alors toute la ville de Cognet a ses funérailles, sans distinction de religion. Il était aimé de tous. Il est reconnu comme le saint de tous, riche et pauvre. Chrétiens, juifs et musulmans. Il reste toujours le grand saint de l'amour. C'est le grand saint de l'amour, comme Saint Jean de la Croix, pour nous, catholiques. C'est le saint de la musique et de la danse aussi. Bien oui. Le saint de la musique et de la danse est l'un des plus beaux exemples de la sainteté en islam. C'est un saint qu'on ne peut qu'aimer beaucoup, il me semble. Comment l'âme, écrit-il, pourrait-elle ne pas prendre son essor, quand de la glorieuse présence un appel affectueux, doux comme le miel, parvient jusqu'à elle et lui dit « Élève-toi, élève-toi ». Comment le faucon pourrait-il ne pas s'envoler, oubliant la chasse, vers le poignet du roi, quand il entend le tabourin? Comment le soufi pourrait-il ne pas se mettre à danser, tournoyant sur lui-même comme l'atome au soleil de l'éternité, afin qu'il le délivre de ce monde périssable? Oh, éloigne-toi de l'eau saumâtre. Hâte-toi vers la source de la vie. Je voudrais commencer cette demi-heure au sujet de Rumi, ce grand mystique musulman, par une prière intitulée « Silence ». C'est tout bref, mais c'est très beau. Seigneur, cette prière n'est pas une prière si mon cœur ne te voit face à face. Mon but en priant, Seigneur, c'est de me lamenter, de te confier ma peine d'être séparé de toi. Quelle prière serait-ce si, restant auprès de toi dans la mosquée, mon cœur demeure dans le bazar? Prier vraiment, c'est ressembler aux anges. Mais moi, je suis encore la proie des bêtes et des démons. De cette prière hypocrite, Seigneur, j'éprouve la honte et je n'ose lever mes regards vers toi. C'est une très belle prière pour nous qui sommes souvent distraits. Nous sommes au bazar au lieu d'être à la mosquée, c'est-à-dire qu'au lieu d'être à l'église, nous sommes chez Provigo. Dans un très beau livre sur l'islam, pour un regard chrétien sur l'islam, publié au Centurion, par Robert Caspar, C-A-S-P-A-R. Je lis en page 27, « Être musulman, c'est d'abord croire en Dieu, puis, plus exactement, c'est croire que Dieu est unique. L'existence même de Dieu est supposée évidente, et de fait, la question ne se posait pas ou guère, ni dans le Coran, qui est le livre sacré des musulmans, comme vous savez tous, j'espère, ni dans le Coran, ni dans la tradition musulmane jusqu'à l'époque moderne. Il ajoute, le message du Coran sur Dieu et tous les signes qu'il invoque portent sur l'unicité de Dieu contre le polythéisme et les déformations de cette unicité. Et lorsque les théologiens entreprendront par acquis de conscience de prouver l'existence de Dieu, ils commenceront par dire comme Ghazali, peut-on douter de Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui ne sont rien sans lui? Aussi, les prophètes ont-ils envoyé aux hommes pour leur enseigner l'unicité de Dieu et non son existence? Je suis presque d'accord avec ça, parce que pour moi c'est évident que Dieu existe. Nous ne serions même pas là. Comment pourrions-nous être là? D'ailleurs, c'est Leibniz qui disait à peu près les mêmes choses dans ses preuves de l'existence de Dieu, Leibniz dont je vous ai parlé hier. Mais cette formule de profession de foi musulmane, croire que Dieu est unique, donne, dit l'auteur ici, paradoxalement à la fois un caractère intellectuel ou rationnel. Et c'est là qu'on voit la différence entre leur religion et la nôtre. Au niveau de la formulation là, de la foi, il s'agit de parler de Dieu avec exactitude, d'employer des formules justes. Les théologiens se demanderont toujours comment dire que Dieu est unique, que s'il est tout-puissant, juste, etc. On est tenté de voir dans cette orientation de la foi musulmane un aspect du respect de la transcendance de Dieu. Et le mouvement de la foi n'atteint pas Dieu en lui-même, ne le touche pas. Il vise la formule exacte sur Dieu et s'arrête à elle. Si Louis Gardet, un des meilleurs spécialistes chrétiens de la théologie musulmane, Louis Gardet, G-A-R-D-E-T, pour lire ça, compare ainsi la foi chrétienne et la foi musulmane, en reprenant la formule géniale de saint Thomas d'Aquin, je vous le rappelle, qui est décédé un an après Rumi. Voici la formule. La foi du chrétien traverse les formulations de la foi et atteint la réalité divine elle-même. Tandis que la foi du musulman n'atteindrait que les formules sur Dieu. Cela vaut sans doute pour certaines définitions de la foi dans le Coran. Exemple, je cite, dire que Dieu a dit vrai et que son prophète a dit vrai. Et surtout chez les théologiens musulmans, mais l'expression la plus fréquente est simplement de croire en Dieu. Et le mouvement de la foi du croyant se soucie peu des définitions théologiques. Il termine plus bas. On n'oubliera pas que l'essentiel en islam comme dans le christianisme est l'union de la volonté de l'homme à celle de Dieu. Cela s'appelle pour le chrétien la charité. Et pour le musulman, l'islam, tout simplement, c'est-à-dire la soumission. Et là, on peut parler d'union. Ils se soumettent, ils sont unis. Nous, nous répondons à l'amour. Et nous aimons. C'est peut-être trop schématique. Certains musulmans diront, mais non, nous aimons aussi Dieu et nous répondons à son amour. Mais ce n'est pas ce que l'on sent. Un grand écrivain sur Rumi a raconté qu'un jour, ce Rumi, alors âgé de 7 ans, lisait pendant la prière du matin le chapitre du Coran qui commence par ces mots. Nous t'avons donné le Qatar. Et le narrateur raconte, je pleurais lorsque tout à coup Dieu, dans sa miséricorde infinie, se révéla à moi, de sorte que je tombai évanoui. Quand je revins à moi, j'entendis une voix mystérieuse qui disait, ô Jalaluddin, c'est-à-dire Rumi, par les droits de notre splendeur, je t'ordonne de ne plus dorénavant faire d'efforts, car nous avons fait de toi un lieu de contemplation. Et en remerciement de cette faveur, je rends des services jusqu'à l'extrême, et je m'efforce d'accomplir cette parole du Coran, ne serait-ce donc point un serviteur reconnaissant, dans l'espoir de pouvoir faire atteindre à mes compagnons la perfection de l'extase. Et c'est tout le cœur de la vie de Rumi, faire atteindre à ses compagnons la perfection de l'extase. Et seul l'amour et l'extase font prendre conscience à l'homme que l'unique réalité est Dieu. C'est la conception pleine d'amour qui habite Rumi. La raison est impuissante. D'après lui, les sciences et la philosophie ne servent à rien. Rumi, humaniste, épris de beauté, dont l'œuvre lyrique, dont je vous ai lu de brefs passages, fait pressentir, au fond, de façon plus ou moins égale, ce que peut être la folie de l'expérience du divin. C'est ça, Rumi. La folie de l'expérience du divin. Et il a composé la plupart de ses poèmes, au dire de ses commentateurs, pendant l'enivrement spirituel. Cette étrange danse mystique qu'il avait intitulée « Dwalatcha » et qu'il avait instituée, pardon. Et Dwalatcha rapporte qu'il avait dans sa maison un pilier. Lorsque le maître était noyé dans l'océan de l'amour, il l'entourait de ses bras, c'est curieux, et il se mettait à tourner autour de ce pilier. Pendant ce temps, il composait des vers qu'il dictait, que les assistants notaient. Mais celui qui a su devenir tout entier comme un regard vers Dieu, découvre en chaque créature, visible ou invisible, la manifestation éternelle de Dieu, la théophanie éternelle. Il a écrit d'ailleurs des textes sublimes sur la théophanie. Dieu seul. C'est extrêmement beau. Je vous en lis un passage dans une anthologie. Au matin, une lune apparut dans le ciel. Elle descendit du ciel et jeta sur moi un regard. Comme un faucon qui saisit un oiseau lors de la chasse, cette lune me ravit et m'emporta en haut des cieux. Et quand je me regardai moi-même, je ne me vis plus, car dans cette lune, mon corps, par grâce, était devenu pareil à l'âme. Quand je voyageais dans mon âme, je ne vis rien autre que la lune, jusqu'à ce que fut entièrement révélé le secret de la théophanie éternelle. Et là, les 9 sphères du ciel étaient toutes immergées dans cette lune, et les skiffs de mon être étaient cachés au sein de cette mer. La mer se brisa en vagues, et de nouveau apparut l'intelligence. Elle lança un appel. Ainsi advint-il. La mer devint écume et à chacun de ses flocons, quelque chose prenait forme, quelque chose s'incarnait. Chaque flocon d'écume corporelle qui reçut un signe de cette mer fondit aussitôt et devint esprit au sein de cet océan. Vous direz que c'est obscur, mais c'est l'union à Dieu qui est écrit au fond dans tout ça. Mais il y a des textes encore beaucoup plus beaux. L'un des plus beaux et qui me touche profondément, c'est celui à la page 273 de l'anthologie du soufisme, dressé par Eva de Vitré-Meyerowitch et paru chez Sindbad il y a plus de 10 ans. Il dit « Dieu a créé les causes, de telle sorte que, à une goutte de sperme qui ne possédait ni l'ouïe, ni l'intelligence, ni l'esprit, ni la vue, ni la tribu royale, ni la tribu d'esclaves, qui ne connaissait ni chagrin, ni joie, ni supériorité, ni infériorité. Il, en parlant de Dieu, a donné un abri dans la matrice. Puis il, Dieu toujours, a transformé cette eau en sang, et le sang en chair, et dans le sein maternel où il n'y avait ni main, ni outillage, il a créé les fenêtres de la bouche, des yeux et des oreilles. Il a façonné la langue et le gosier et le trésor de la poitrine, où il a mis un cœur, qui est à la fois une goutte, un monde, une perle, un océan, un esclave et un roi. Quelle intelligence peut comprendre qui nous est amené de cet état ignorant et méprisable jusqu'à notre élévation? Mais oui, quand Dieu nous crée, hein, c'est tout à fait ça. Quelle intelligence humaine a pu comprendre que Dieu nous a amenés de cet état ignorant et méprisable de la matière ordinaire jusqu'à notre élévation? Et Dieu a dit, as-tu vu, as-tu entendu d'où je vous ai amenés et jusqu'où? Maintenant encore, je te dis que je ne te laisserai pas là où tu es non plus. Je t'amènerai au-delà de cette terre et de ce ciel, en une terre très douce et un ciel qu'on ne peut imaginer ni se représenter. Sa nature est de dilater l'âme dans la joie. Et au sein de ce firmament, c'est toujours Dieu qui parle, ce qui est jeune ne devient pas vieux. Ce qui est nouveau ne devient pas ancien. Nulle chose ne se corrompt. Il parle du ciel, évidemment. Nulle chose ne se corrompt, ni ne s'abîme. Rien ne meurt. Aucune personne éveillée ne s'endort. Parce que le sommeil est fait pour le repos et pour chasser la douleur. Et dans ce lieu, le ciel, évidemment, il n'y a ni souffrance, ni chagrin. Et si tu ne le crois pas, réfléchis un instant. Comment cette goutte de sperme aurait-elle pu te croire si tu lui avais dit « Dieu a créé un monde en dehors de ce monde de ténèbres, un monde où il y a un ciel, un soleil, un clair de lune, des provinces, des villes, des villages, des jardins, où il existe des créatures parmi lesquelles il y a des rois, des riches, des gens de bonne santé, des malades, des aveugles. Maintenant, crains, ô goutte de sperme, lorsque tu sortiras de cette demeure ténébreuse, à quelle catégorie appartiendras-tu ?» Et Rumi conclut « Aucune imagination et aucune intelligence » ne pourrait croire à cette histoire, qu'il existe en dehors de ces ténèbres et de cette nourriture de sang, un autre monde et une autre nourriture. Or, bien que cette goutte ignorât et niât une telle possibilité, elle n'a pourtant pu éviter de sortir, car on l'a amenée de force au dehors. Alors, tu te trouveras en dehors de ce monde, pareil au sein maternel. Tu quitteras cette terre pour pénétrer dans une vaste étendue, sachant que la parole du Coran, la terre de Dieu est vaste, désigne cette ample région où sont arrivés les saints. Oui, nous sommes nés, faits de la matière de cette terre. C'est Dieu qui nous a fait dans le sein de notre mère pour devenir des saints. Nous serons aspirés par le ciel. Et tout ce texte poétique et à la fois scientifique de Rumi est d'une grande richesse, une grande beauté pour nous faire comprendre que nous sommes appelés à être plus que ce que nous sommes. Nous sommes appelés à être ce qu'il appelle les hommes parfaits. L'insan ul kamil. Une notion qui domine toute l'œuvre de Jalaluddin Rumi, en laquelle il s'incarne, en laquelle s'incarne aussi sa sensibilité religieuse. Tout est là. Il appelle à la perfection. Rumi est ce sage qui, mort en 1273, appelle tous les musulmans et finalement toute l'humanité entière à le suivre dans la vision de Dieu et l'adoration pour l'éternité. Rumi disait que le but de l'univers, c'est l'homme. La fin de tout enseignement spirituel, écrit Madame de Vitry-Meyerowitch, la fin de tout enseignement spirituel est de faire accéder le disciple à la conscience de son imminente dignité, de faire devenir ce qu'il est, mais qu'il ignorait jusqu'alors. Si on enseignait à nos enfants qui ils sont, ce n'est pas leurs parents qui les ont faits, mais c'est bien Dieu, comme je vous l'ai dit, lui tout à l'heure, qui les a faits par amour. Quand ils sont nés pour devenir des saints. L'homme est en effet l'astrolabe des attributs de la sublimité divine, écrit Rumi. Et sa nature est le lieu des révélations de Dieu. Voici un beau texte, extrait de ses très longs écrits, dans des milliers de vers. Tout ce qui apparaît en Adam est son reflet, le reflet de Dieu. À l'instar de la lune qui se reflète dans l'eau de la rivière. Les figures représentées sur la tablette de cet astrolabe s'y trouvent afin de manifester les attributs éternels. Ça veut dire que nous avons des attributs, volonté, intelligence, etc. Ça nous vient de Dieu. Ça manifeste les attributs éternels de Dieu. Et le troisième vers, c'est de telle sorte que cette tablette puisse donner des leçons, révélant le ciel de l'invisible et le soleil de l'esprit. Et c'est ça, nous sommes faits pour quoi? Pour révéler le ciel de l'invisible. Nous sommes faits pour témoigner de Dieu. Nous devons être des lumières. C'est ce que la liturgie nous rappelle, le soir du samedi saint, quand on nous donne ce cierge, qui nous rappelle notre baptême, en fait, puisqu'on baptise en principe le samedi saint au soir, dans la grande tradition de l'Église. Il faut aller voir les grands baptistères à Rome. Il faut assister à ces baptêmes magnifiques. Ah, c'est superbe. Saint Jean de Latran ou ailleurs. Les baptêmes d'adultes, les convertis qui se font baptiser. Le samedi saint, que c'est beau. Aujourd'hui, c'est le samedi saint au matin. Oui, nous devons être le soleil de l'Esprit, rayonné de la splendeur de l'Esprit Saint. Dans son ouvrage, Robert Cascard apporte une conclusion extrêmement intéressante. C'est une charte fondamentale du groupe de recherche islamo-chrétien. Il est écrit « En ces temps où les défis portés à la foi au Dieu unique sont nombreux et divers, nous pensons que les religions, particulièrement la religion musulmane et la religion chrétienne, sont affrontées en commun à ces défis internes et externes. Il ne s'agit nullement de constituer un front commun des croyants pour combattre les porteurs de ces défis. Mais nous avons à surmonter sans cesse les oppositions politico-religieuses qui ont conduit nos religions à s'affronter et qui correspondent à une situation à dépasser de blocage entre foi, société et empire temporel. En somme, ces sages religieux musulmans et catholiques et chrétiens voudraient que nos politiciens, des deux côtés, dans les pays arabes, dans les pays musulmans à travers le monde, cessent de faire ce qu'ils font, comme ils font actuellement à cet évêque en Indonésie, que c'est triste persécuter cet évêque qui a eu le prix Nobel. Quand est-ce que tout ça va cesser? Quand est-ce qu'au Soudan ça va cesser? Quand est-ce qu'on profitera de notre exemple et nous accueillons les musulmans ici dans notre pays et en France et ailleurs avec autant de générosité qu'on peut? Nous avons, dit le texte ici, à nous retrouver ensemble entre croyants pour aborder ensemble, en croyant, ces défis du monde contemporain et faire profiter nos communautés religieuses respectives des questions que ces défis leur posent et les rendre capables d'y apporter des réponses adaptées afin que la lumière et l'espérance dont elles sont porteuses puissent être reconnues et reçues par ceux qui cherchent la vérité et la justice, de même que les musulmans, qu'ils soient sunnites, chiites ou kharijites, se reconnaissent d'abord entre eux comme musulmans, de même que les chrétiens, qu'ils soient catholiques, protestants ou orthodoxes, se reconnaissent actuellement d'abord comme chrétiens, frères en Christ. Ainsi, musulmans et chrétiens doivent d'abord se reconnaître entre eux comme croyants, frères dans la foi en Dieu. Dans ce sens et dans ce sens seulement, nous nous reconnaissons dans l'expression d'écuménisme des religions. Mais il semble parfois qu'on en soit si loin. Que c'est douloureux. Que c'est douloureux de penser que souvent les chrétiens sont persécutés par nos frères musulmans. Comment se fait-il? Comment se fait-il? Rumi déclare, nous sommes la harpe et c'est toi, Seigneur, qui joues sur nos cordes. Ce n'est pas nous qui nous lamentons, c'est toi qui gémis. Nous sommes comme la flûte. Notre musique vient de toi. Les pièces d'un échiquier que tu ranges en bataille et fais se mouvoir pour la défaite ou la victoire. Notre victoire et notre défaite, elles sont dues à toi, être suprême. Qui sommes-nous, ô âme de nos âmes, que nous existions auprès de toi? Ah, nos existences ne sont que non-existence, car tu es l'être absolu. Tu fais apparaître les choses périssables. Bien oui, tu fais apparaître les choses périssables. Dieu est tout pour lui. Et il dit, comme prière du soir, au moment de la prière du soir, quand le soleil se couche, la voie des sens se ferme. La voix de l'invisible s'entrouvre. L'ange du sommeil conduit les âmes jusqu'au seuil à la façon d'un berger qui veille sur son troupeau. Et dans l'au-delà de l'espace, au sein de la prairie spirituelle, quelles étranges cités, quels étranges jardins il leur fait apercevoir. L'âme contemple mille formes et visages merveilleux quand le sommeil efface d'elle l'empreinte de ce monde. On dirait que l'âme a toujours habité ce pays, elle ne se souvient pas d'ici-bas et n'en éprouve pas de tristesse. De toutes les choses matérielles pour lesquelles elle tremblait, elle s'est détachée, de telle sorte que nul souci sur elle n'a plus de prise. Le sommeil, c'est un grand avantage que Dieu nous donne dans un sens, pour nous permettre de comprendre que nous sommes appelés, comme on dit dans les cimetières, c'est endormi dans le Seigneur. Ce grand sommeil dans le Seigneur, c'est pas un sommeil, c'est un éveil total. Et c'est le grand éveil dans la douceur qui nous sera donné, et à laquelle, j'espère, tous nous aspirons malgré notre désir de vivre, car il faut aspirer à cette rencontre finale où nous verrons Dieu, voir Dieu enfin. Jalal ad-Din Rumi, on a publié de lui Rubaiyat, ce sont des quatrains, parus dans Collection Spiritualité Vivante chez Albin Michel. J'avais beaucoup d'autres livres que j'ai prêtés, mais qui ne me sont pas malheureusement revenus. Mais je vous conseille aussi d'Eva Vitré-Meyerovitch, Mystique et poésie en islam, Jalal ad-Din Rumi et l'ordre des derviches tourneurs. C'est très long, c'est un ouvrage considérable, c'est plus de 300 pages. Et c'est paru chez Desclés de Brouwer. Et enfin, l'anthologie du soufisme toujours de Eva de Vitré-Meyerovitch, paru chez Sinbad. Pour un regard chrétien sur l'islam, c'est au Centurion de Robert Caspar. Mais j'ai au moins 70 livres sur l'islam. Je ne saurais trop vous recommander d'en lire afin de mieux comprendre. Mais nous comprenons mieux en les lisant la joie que nous avons d'être chrétiens et de connaître Jésus-Christ et de l'aimer. Moi, personnellement, je ne quitterai jamais Jésus-Christ. Ah, je serais incapable.